Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Elite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Elite présenté par l'agence Pure Commerce, un partenaire de croissance qui veut transformer votre commerce en ligne en commerce élite. Et une nouvelle fois sur le podcast, on parle de emailing, mais cette fois-ci avec plusieurs nouveaux tests. On vous sort d'ailleurs des trouvailles assez fascinantes qui nous ont permis d'améliorer énormément nos résultats dernièrement. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va parler d'un contenu qui sort tout droit chez Content Square. Content Square, c'est une entreprise qui offre des outils pour mesurer et analyser l'expérience qu'ont vos clients sur votre site internet ou votre application. Leur dernière étude porte sur 35 optimisations à mettre en place sur votre page d'accueil pour améliorer vos résultats. Et puisque l'entreprise possède beaucoup de clients, celle-ci peut faire des analyses et trouver des tendances à l'interne pour en ressortir des conseils qui pourront s'appliquer au plus grand nombre. Et laissez-moi vous en partager quelques-uns qui m'ont beaucoup parlé. Numéro 1, gardez votre barre de navigation près de l'utilisateur. Le problème lorsqu'on a une page d'accueil qui est très longue, c'est qu'inévitablement, à force de la faire défiler, elle s'éloigne de plus en plus. Et je parle de la barre sur laquelle on retrouve tous vos onglets. La situation est d'autant plus terrible sur mobile. Donc, Content Square vous conseille de toujours avoir cette barre affichée dans le haut de votre page et qu'elle descende au fur et à mesure avec l'écran du visiteur. Ça lui évite ce mouvement fastidieux de revenir au tout début s'il n'a pas trouvé un contenu qui lui plaît. Mais il ne faut surtout pas oublier, ce n'est pas tout le monde qui possède un écran mobile de grande taille. Ainsi, votre barre ne doit pas gâcher pour autant l'expérience du visiteur en masquant un trop gros pourcentage de l'écran. Du coup, il est très ingénieux de tester votre site sur des mobiles de tailles différentes pour découvrir s'il est bien adapté ou non. Aussi, une autre optimisation consiste à réduire la taille du premier élément affiché de sorte que le bloc suivant apparaisse en petite partie à l'écran. Exemple, votre premier bloc présente la nouvelle collection qui vient tout juste d'arriver. Alors le second, vos promotions ici, doit apparaître légèrement en dessous. En utilisant cette méthode, vous attirez l'attention du visiteur si le premier bloc de contenu ne lui plaît pas. Ainsi, vous gagnez cette chance de le convertir au deuxième coup. Numéro 2, illustrez vos catégories. Souvent, lorsque je vais sur un site e-commerce de vêtements, par exemple, je me retrouve à faire défiler une liste très longue de catégories de produits. Parfois, ces catégories ne m'offrent rien du tout, ce qui peut s'avérer assez problématique quand le site est censé me donner l'envie d'acheter. Ici, le conseil est d'avoir des catégories bien illustrées sur votre page d'accueil avec des images de vos produits les plus populaires. C'est d'ailleurs un excellent test AB à suivre, à savoir changer les visuels pour découvrir lequel fonctionne le mieux pour déclencher le clic. Ça me fait penser d'ailleurs au Ecom World qui s'est terminé le 6 mai dernier. Un des plus gros événements lorsqu'il s'agit de parler e-commerce globalement. Donc, trouver un produit, monter un site, faire de la publicité ou s'ouvrir à une place de marché. Déjà, c'était impressionnant à quel point Amazon avait investi dans l'événement. Pour vous dire, sur 3 jours, une journée entière était consacrée au e-commerce sur Amazon. Ce n'était pas le cas l'année dernière, par exemple. Alors, si ça vous intéresse d'avoir un épisode consacré à cette thématique, vous n'avez qu'à me laisser un commentaire et je m'en occuperai. Revenons à l'événement maintenant. Nous avions une conférence de Nolan Ayer, un expert de UI et UX design pour e-commerce. Dans sa conférence, il conseillait aux différents détaillants d'afficher 2 choses lorsqu'un visiteur tape dans la barre de recherche du site. Numéro 1, d'abord des suggestions relatives aux produits que la personne cherche et numéro 2, des résultats de produits avant même que la personne ne valide sa recherche. Autrement dit, il s'agit que la barre de recherche s'agrandisse pour offrir des propositions de produits. Beaucoup plus simple pour le visiteur si le produit qu'il cherche apparaît tout de suite plutôt qu'ils doivent lancer véritablement la recherche et qu'ils se retrouvent sur une nouvelle page avec d'autres produits qui viendront noyer le résultat. Numéro 3, ajoutez un élément pour rejoindre votre infolette facilement. Vous pouvez vous dire, personne ne va s'inscrire à mon infolette, ce n'est pas pour moi ce genre de truc, mais pourtant, vous auriez tellement tort de vous en priver. Nous-mêmes avons cet élément sur l'un de nos sites et c'est impressionnant à quel niveau il apporte des prospect de manière totalement organique. D'accord, c'était peut-être pas le même volume que si vous faisiez de la publicité pour cette même infolette. Mais est-ce qu'un lead branché sur votre site n'a pas plus de valeur qu'un lead qui vous rejoint depuis une publicité externe? Personnellement, je n'ai pas la réponse, mais la question mérite d'être posée, surtout que ça s'apparente au SEO. Au début, votre base de email ne sera pas incroyable, mais avec 100 visiteurs par jour et 2 qui s'inscrivent à l'infolettre, ça vous fait presque 800 leads à la fin de l'année. Pensez-y. On termine avec elle que je vois de plus en plus au bas des pages e-commerce. C'est l'utilisation d'une section réseaux sociaux. Attendez, l'objectif n'est pas de rediriger vers vos différents médias sociaux, c'est plutôt d'avoir des images UGC que vous trouvez sur les réseaux et de les utiliser pour rediriger vers les produits affichés. Par exemple, une cliente publie une photo avec votre robe et vous identifie, et avec son consentement, vous prenez sa photo, vous l'insérez sur votre site, et si un acheteur potentiel clique dessus, celui-ci sera automatiquement redirigé vers la page offrant cette robe. L'idée est de montrer du contenu organique jusqu'à même votre site. D'ailleurs, s'il le désire, n'hésitez pas à ajouter le A commercial de votre client. De cette façon, vous irez chercher encore plus d'effets pour le visiteur qui retrouvera la photo originale directement sur Instagram. C'est ainsi que vous jouez la carte de la transparence et tout le monde apprécie. Aimeriez-vous augmenter vos résultats de 40% simplement avec un changement d'heure dans l'envoi de votre séquence de bienvenue ou encore augmenter de 27% votre taux de clic en intégrant une image d'une certaine façon dans votre envoi d'infolettre? Eh bien, aujourd'hui sur le podcast, on veut vous partager des trouvailles assez intéressantes qu'on a faites récemment chez Pure Commerce. Florian Vinel, spécialiste emailing chez Pure Commerce dans l'équipe de Tony Tran, est avec nous aujourd'hui pour nous livrer des trouvailles assez extraordinaires qui, à mon avis, vont grandement vous plaire et également vous aider dans votre stratégie de commercialisation. Soyez prêts, ça commence maintenant. Donc, on est de retour pour l'épisode commercialité. Aujourd'hui, on va continuer de parler de emailing. Et je dis continuer parce qu'on l'a déjà fait dans les épisodes précédents. Et cette fois-ci, ce n'est pas Tony Tran, mais bien Florian Vinel qui va être avec nous aujourd'hui. Florian qui fait partie de notre équipe de emailing depuis quelques mois maintenant. Et Florian, je pense que tu as des tests assez intéressants à nous parler aujourd'hui. Et le premier de ces tests, c'est par rapport au délai dans les envois de flow. Peux-tu nous en dire un petit peu plus?
Oui, tout à fait. Alors déjà, bonjour tout le monde. Alors, les délais d'envoi dans les flows. Les flows sont construits avec une série d'emails qui sont automatisés et qui sont déterminés par une action faite par un client sur un site. Donc on a par exemple des flows qui servent à accueillir les personnes qui s'inscrivent à des infolettres. On a des flows qui sont construits pour envoyer des emails de rappel suite à un abandon de panier, un abandon de visite, des flows qui sont construits comme upsell pour faire du nurture d'un client qui vient de passer une commande, par exemple. Donc ça, c'est ce que sont les flows, c'est-à-dire des automatisations d'envoi d'email. Et généralement, quand je prends un nouveau client, que je fais un audit ou même que je travaille sur des optimisations de nos clients actuels, les délais d'envoi dans les flows, ce sont les choses que je regarde, je dirais, le plus souvent. Pourquoi ? Parce que les résultats sont tout simplement les plus impressionnants, en fait, les plus puissants. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de quelques tests qu'on a fait avec nos clients sur des délais d'envoi dans les flows. Et pour commencer, c'est dans un flow welcome, donc qui sert à accueillir les gens qui s'inscrivent à l'infolettre de notre client dans leur communauté. On va plutôt parler de la marque, de ses valeurs, de la communauté donc qu'elle souhaite créer et qu'elle a créée. Ici, c'est un client qui est dans l'industrie de la beauté, qui a toujours d'ailleurs des statistiques sur le premier email de cette série qui sont franchement excellentes. C'est-à-dire qu'on est quasiment à 60% d'ouverture de cet email, on est à plus de 10% de clics et on est à 9% de conversion. Donc pour vous donner une idée, simplement ce premier email dans la série Welcome, à lui tout seul, il représente 3,3% du chiffre d'affaires de notre client. C'est quand même assez fabuleux, surtout sur une série de welcome. On n'a pas particulièrement l'intention de mettre en avant la vente, mais plutôt de mettre en avant, comme je disais, les valeurs de l'entreprise et la communauté qu'elle souhaite créer. Donc moi, ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Et quand je regardais les deux emails suivants, je voyais 10 fois moins de résultats. Donc en soi, ce n'est pas choquant étant donné la performance du premier email, mais il y avait forcément pour moi un moyen de faire mieux sur ces emails 2 et 3. Donc une première chose que je regarde, bien évidemment, ce sont les délais d'envoi. Et on avait quelque chose de très très classique, c'est-à-dire un délai de 24 heures entre chaque email. Premier email envoyé au moment où la personne s'inscrit, ou 5 minutes après, et un email 2 envoyé un jour après, un email 3 envoyé un jour après. Donc moi, j'avais déjà testé ça. J'ai décidé de passer le délai à 20 heures au lieu de 24 heures. Pourquoi ça peut changer des choses? Eh bien, par exemple, si j'ouvre cette, si je fais l'action de m'inscrire à l'infolettre à midi, avec un délai de 24 heures, je reçois l'email 2 de la série le lendemain à midi. Si j'ai un délai de 20 heures, l'email 2 de la série, je le reçois le lendemain à 8 heures du matin. Ça change des choses. Je trouve ça intéressant de le tester. Ça peut être très bon, comme ne rien changer, comme avoir des performances moins bonnes. Mais j'ai déjà vu de très bons résultats avec ce genre de changement. Donc même une petite différence de 4 heures dans un délai, ça peut avoir des résultats assez, assez sympas. Et je vais donc vous donner les résultats sur ce test-là.
Ouais, je suis curieux.
Donc on avait, avec les délais de 24 heures, $1,30 par destinataire. C'est-à-dire que chaque personne qui rentre dans ce flow génère $1,30 à notre client.
Donc si on fait ça simple, Florian, s'il y a 1000 personnes dans notre séquence de bienvenue, 1000 personnes, $1,30 par destinataire, ça veut dire qu'on va faire $1,300 avec ces gens-là en moyenne. C'est un petit peu ce qu'on est en train de voir comme chiffre aujourd'hui.
1000 personnes par mois dans ce flow, ce serait $1,300 générés par mois.
Ok.
Exactement. Et donc, après avoir fait ce petit changement de 4 heures de différence dans les délais d'envoi, on observait $1,85 par destinataire. Ce qui veut dire qu'on a quand même gagné 40% de revenus chaque semaine, chaque mois et chaque année.
De manière automatique.
Donc, exactement. Et ça, ça m'a pris, je dirais, une minute. C'est vraiment le temps d'y réfléchir, le temps de me dire est-ce que je le fais? Oui, je le fais. Ok.
Assez intéressant comme premier test. Je suis certain que notre audience va vouloir tester les délais d'envoi entre le deuxième, le troisième ou peut-être même entre le premier et le deuxième email pour la séquence de bienvenue. Quelles sont les autres choses que tu as testées dans le mois dernier qu'on pourrait partager avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui?
Eh bien, écoute, on a fait les délais d'envoi dans les flows, dans un flow welcome. J'ai aussi fait des tests dans d'autres flows qui ont été franchement assez extraordinaire. Je peux te parler de cela ou bien sinon on peut passer à autre chose?
Oh, moi j'aime ça quand tu me parles de choses qui ont été assez extraordinaires. Là, vas-y.
Ok, parce que tu vois, un flow welcome, en principe, n'a pas forcément trop but de faire du revenu. C'est plutôt pour présenter la marque, faire rentrer les personnes qui sont inscrites à l'infolettre dans une communauté, etc. On a quand même vu qu'on peut aller chercher du revenu et même avec des optimisations aller chercher beaucoup de revenus, mais par exemple dans un pour un autre client dans un flow d'abandon de panier, ça c'est un client qui se spécialise dans les articles pour bébés, articles écologiques, etc. J'ai répliqué le même test ouais sur deux flows différents, donc l'abandon de panier et le flow d'abandon de visite. Dans ces deux flows, c'était simplement deux emails. Ça c'était donc le client, c'est ce qu'il avait à la base. Et on m'a donc donné un peu la mission d'améliorer tout ça. Et je suis allé voir donc dans ces deux flows et on avait un email qui était programmé pour être envoyé 3 jours après avoir fait un abandon de panier ou un abandon de visite. Et le deuxième, lui, était envoyé 24 heures après le premier. Donc, moi, je dirais, en général, toute industrie confondue, les personnes qui passent dans des flots d'abandon de panier et de visite sont très certainement les personnes qui sont le plus proches de la commande.
Bien sûr.
Donc, c'est déjà des gens avec qui on veut communiquer assez rapidement après cette action. Et deuxièmement, des gens avec qui on veut être quand même assez agressif en termes de code promo et de communication. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis un test AB, donc c'est toujours 50-50. J'envoie 50% des personnes sur une première version et 50% des personnes sur une deuxième version. La deuxième version que j'ai mis donc pour essayer, c'était un délai de 2 heures sur le premier email pour vraiment essayer de communiquer avec les gens tant qu'elles sont encore sur une intention assez forte, et un délai de 22 heures pour le deuxième. Ce qui revient finalement à avoir un deuxième email qui arrive 24 heures après l'action. Donc, on a moins de trafic avec ce client. Ces tests-là ont duré beaucoup plus longtemps. Mais dès le départ, j'ai vu qu'il y avait une énorme différence. Et donc, sur le flow d'abandon de panier, ça, c'est un des deux flows sur lesquels j'ai fait le même test avec 2 heures au lieu de 3 jours et 22 heures au lieu de 24 heures. On avait $4,40 par destinataire, ce qui, encore une fois, est très bon. Mais c'est un flow d'abandon de panier.
Bien sûr.
Donc, c'est plutôt dans la moyenne. Une fois que j'ai eu assez de données pour mettre un chiffre là-dessus, je suis arrivé à $7 par destinataire avec ma version d'envoi plus court. Ce qui fait qu'on a gagné 60% de revenus sur chaque destinataire sur ce flow. Et ça, c'est un des deux flows. Donc, on a 3600 destinataires par an sur ce flow. Ce qui fait que la différence de 2,60$ par destinataire qu'on a réussi à prendre sur ce flow, ça représente 9,360$ par année pour le client.
Mais là, ça c'est intéressant, mais c'était quoi le changement que tu fais spécifiquement pour le email, juste pour être ça? Parce que là, simplement, c'est des chiffres stratosphériques, là.
Le délai d'envoi.
C'est-à-dire juste le délai d'envoi, ok.
Exactement. Okay. Le client avait envoyé un email d'abandon de panier 3 jours après l'action. Et ça, pour moi, c'est beaucoup,
bah
trop,
oui,
long.
C'est beaucoup trop.
Et
bien,
ça m'a vraiment sauté aux yeux. Et donc, très généralement, je mets 2 heures de délai d'envoi pour le premier email d'un flow d'abandon de panier ou d'abandon de visite, qui sont plus ou moins similaires. Il y a juste une intention quand même un peu plus élevée sur l'abandon de panier, puisque la personne est déjà allée jusqu'à l'étape de paiement.
Intéressant.
Mais je mets exactement les mêmes délais dans les deux, c'est-à-dire 2 heures pour le premier envoi, c'est-à-dire une fois que la personne a ajouté au panier, qu'elle a quitté le site, 2 heures après, elle reçoit le premier email. Ensuite, généralement 22 heures ou 24 heures pour l'email 2, puis 24 heures pour l'email 3. Ça peut être un peu plus serré que ça, mais le plus important, selon moi, c'est vraiment l'email 1. Et c'est pour ça que ce délai de 3 jours me paraissait beaucoup trop grand. Et c'est tout de suite quelque chose qui m'a sauté aux yeux et que j'ai voulu tester, faire un petit test AB. Et donc voilà, avec un délai de 2 heures au lieu de 3 jours, bah, ne serait-ce que sur le premier email, on a déjà gagné 60% de revenus. Et il y a un deuxième email, ce qui lui aussi va venir plus tôt et qui lui aussi va nous rapporter 60% de revenus en plus. Donc j'ai très vite passé ça à 100% sur la version B, bien évidemment.
Bon, en même temps, je pense que le test était plus facile ici parce que 3 jours pour un email de panier abandonné, déjà en partant, il y avait
quand même
des erreurs.
C'est vraiment énorme. Oui. Et donc, ce test répliqué sur le flow d'abandon de visite, c'est sensiblement les mêmes résultats, c'est-à-dire que je suis passé de 3,20$ par destinataire à 5,70$ par destinataire, ce qui fait quasiment doubler, 80% de revenus en plus, et donc 1490 destinataires par an sur ce flow, c'est 3700$ par année pour le client. Donc sur ces deux tests similaires, sur deux flows différents, on apporte 13 000$ par an de plus pour le client.
Ça, je pense que c'est des revenus qui sont assez intéressants, alléchants pour n'importe quel propriétaire de e-commerce ou directeur marketing qui nous écoute aujourd'hui. Et c'est la force du email. Parce que quand on veut faire des tests en publicité, habituellement, on doit payer. Ici, bien entendu, c'est des flows qui sont déjà en place. C'est un coût uniquement pour la plateforme de emailing qu'on va faire. Le reste, c'est du trafic qui nous appartient déjà. Et là, c'est à nous de se poser les bonnes questions sur les optimisations. Donc ça, c'est excessivement intéressant. Peut-être un dernier test qu'on pourrait partager à notre audience aujourd'hui. Florian, j'ai la chance d'avoir tes notes devant les yeux présentement. Je vois le email mobile friendly, donc de ce que je comprends avec notre équipe de création chez Pure Commerce, tu as décidé peut-être de travailler sur des emails uniquement orientés sur un certain type de consommation en termes de device là, pour le consommateur. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce test?
Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'on a vraiment une équipe de design et une équipe de rédactrices qui sont fabuleux. Et donc, j'ai la chance de travailler avec eux. Et suite à de nombreuses discussions, on s'est rendu compte que c'était pas trop compliqué de faire du contenu qui soit mobile friendly, mais qui soit beau pour la lecture sur ordinateur ou sur d'autres devices. Donc, ce qu'on a essayé de voir là-dedans, c'est quelles sont les optimisations qu'on peut faire pour avoir vraiment des emails qui soient agréables à lire sur mobile et à la fois qu'on ait, nous, de notre côté, en tant que personne qui souhaite amener à une action de conversion, un email qui soit vraiment performant. Donc, pour mettre un peu de contexte, en fait, il faut savoir qu'en 2022, il y a généralement au moins 60% des gens qui ouvrent leur email sur mobile. Ça peut être même plus, je vois des fois 65-70% selon les industries. La fashion, souvent, c'est plutôt proche de 70% des gens qui ouvrent les emails sur mobile. Donc, cette statistique, très certainement, qu'elle fera qu'augmenter dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc, il faut bien évidemment prendre cette donnée au sérieux et travailler nos emails pour qu'ils soient responsifs, par exemple, que leur lecture soit agréable sur mobile. Donc, un premier test qu'on a effectué avec notre équipe, le design de l'email, tout particulièrement la première image. Généralement, on place une image en haut des emails qu'on appelle l'image héros, et donc c'est celle qui se trouve tout en haut. Pour travailler cette image de manière mobile friendly, ce qu'on fait, il y a plusieurs choses, et ça c'est pas moi qui l'invente, c'est nos designers, designeuses qui m'ont dit, qui m'ont donné des idées et qui m'ont, voilà, on a discuté, elles m'ont dit, voilà ce qu'il faut qu'on fasse pour être propre au maximum sur mobile. Premièrement, on augmente le contraste. Généralement, quand on est sur mobile, que ce soit sur les applications comme Facebook, Instagram fait beaucoup ça, ajoute une certaine saturation à toutes les images, ajoute un peu de contraste, etc. Donc nous, dans le contexte d'un email, il faut qu'on suive un peu cette tendance qu'ont les applications à rendre les images toujours plus belles. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, on est sur souvent des écrans plus petits, bien évidemment, que les ordinateurs ou que les tablettes. Donc ce qu'on veut, c'est zoomer un peu plus sur notre sujet, sur l'image en général, mais sur le sujet dans l'image. Ça peut être un symbole ou une personne ou peu importe. Ce qu'on veut vraiment, c'est que ça prenne quand même une bonne partie de l'image pour que la visibilité soit optimale. Une troisième chose qu'on peut faire, c'est agrandir un peu le texte. Par contre, faire des phrases plus courtes. Et ça, c'est pas forcément toujours facile, mais vous verrez, c'est toujours le même principe, on est sur des écrans plus petits, donc une phrase plus courte, mais qui prend plus d'espace sur notre image ou sur notre téléphone, tout simplement, aura plus d'impact. Et ensuite, dernière chose, mais on s'est rendu compte à quel point c'était très important, c'est qu'on veut toujours, en principe, avoir un call to action en bas de notre image héros. Et ça, préférablement sous forme de bouton. Et cette image, elle prend tout l'espace lorsque l'email est ouvert. Donc ça, moi, c'est pas moi qui le fais, mais nos designers savent exactement la taille dont on a besoin pour que lorsqu'on ouvre l'email, l'image prenne tout l'écran sans qu'on ait besoin de scroller. Et donc ça, très important que le CTA soit très haut dans l'email. Généralement donc sur ce hero banner, cette image hero, et que on le voit sans avoir à scroller. Et donc c'est le test qu'on a fait avec un de nos clients. Donc plusieurs points. L'ancienne image par exemple était moins contrastée, elle était un peu plus grande, c'est-à-dire que le sujet était plus petit dans le rapport à l'image. Il n'y avait pas de call to action sur cette image et plus de texte, c'est-à-dire des phrases plus longues, mais donc plus petites et potentiellement moins faciles à lire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une nouvelle image. On s'est vraiment concentré sur l'image héros, sur ce test. Et donc, on a fait une image plus contrastée, un peu plus zoomée. On voyait mieux le sujet. Le texte a été agrandi. On a fait des phrases plus courtes. Et on a mis un CTA en bas de notre image qui est visible sans avoir besoin de scroller. Donc, les résultats. La version A, 1,8% de clics et 0,13$ par destinataire. Pas mauvais, pas excellent, juste bien. Version B, 2,3% de clics et 0,35$ par destinataire. Donc déjà, 30% de plus de clics, c'est franchement pas mauvais. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on envoie un email, on a une personne sur trois potentiellement qui va cliquer au lieu de ne pas le faire. Donc ce qui est vraiment bien. Et surtout, une augmentation de 170% du revenu généré sur cet email. Donc ça, c'est juste un email, mais on peut imaginer la force que ça peut avoir sur tout un flow, sur tout un compte.
Bien sûr.
Voilà.
Puis juste pour être certain ici, le email qu'on parle, c'était une initiative en mode broadcast ou c'était un flow?
Très certainement en mode broadcast.
OK, intéressant.
Je ne l'ai pas noté, mais très certainement en mode broadcast, oui.
Intéressant. Et je pense que tu le fais avec un autre client par la suite, un test qui était très similaire ici. Qu'est-ce que ça l'a donné comme résultat?
Exactement. Donc, on a répliqué ce test chez un autre client. Et là, pour le coup, c'était un email d'une série Welcome.
OK.
Donc, toujours pareil. Ancienne image, moins contrastée, un peu plus grande. Donc, le sujet était plus petit dans l'image. Il n'y avait pas de CTA. On avait un texte dans l'image, mais qui était toujours long et donc plus petit. Et donc, on a fait la même chose. Nouvelle image, plus de contraste. On zoome sur le sujet, on agrandit le texte, on fait des phrases plus courtes, on met un CTA en bas de l'image sous forme de bouton incrusté dans l'image. Et donc, les résultats ici, c'est, on était déjà sur des résultats assez fous, honnêtement. 16,3% de clics et 9,14$ par destinataire. Ça, c'est un client avec qui on travaille depuis très longtemps et honnêtement, les optimisations ont été assez poussé. Moi, je suis arrivé il y a 4 mois et je savais pas où est-ce que j'allais trouver mieux, à faire mieux, mais on a quand même réussi à trouver des optimisations comme celle-ci. Et donc, la version B, on est passé à 18,4% de clics, ce qui est 12% de clics en plus, mais quand on était déjà à 16,3, honnêtement, c'est quasiment une prouesse d'aller faire mieux. Et donc ici, on est passé à 14,20 $ par destinataire. Donc on a augmenté le revenu de 55% juste en changeant la première image de l'email. Tout le reste était similaire. Et donc ça, pour vous donner une idée, c'est un email donc dans un flow welcome qui est envoyé à 9600 personnes par an. Donc là, nous, on fait 5,06 $ de plus par personne qui le reçoit. Donc si on multiplie 5 par 9600, ça nous donne quasiment 50 000 $ par an qu'on fait en plus pour notre client. Sur un seul email, sur une seule image.
Ah, ça n'a aucun sens.
Donc c'est quand même assez fabuleux.
C'est le pouvoir des optimisations.
Exactement.
Florian, merci énormément des informations que tu nous as données aujourd'hui. C'était excessivement riche. J'espère que notre audience va pouvoir en bénéficier. On recommence le rendez-vous le mois prochain. Qu'est-ce que tu en dis avec tous les tests qu'on fait? Je pense qu'on pourrait prendre cette approche-là et le faire de manière mensuelle, là.
Avec grand plaisir. Moi, ça me fait un énorme plaisir de vous parler de tout ça. Et puis, sachez que c'est moi qui en parle, mais on a toute une équipe derrière qui m'aide énormément à faire toutes ces choses-là. Et puis, bien évidemment, on a Antoine qui nous suit et qui nous pousse à toujours faire mieux. Donc, voilà, si on arrive à donner ces résultats pour nos clients, c'est parce que toute l'équipe, tout le monde y travaille très, très fort.
Fantastique. Florian Vinel, merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commerce Élite.